L'inspiration est un courant ténu de brillante clarté, jaillissant de la connaissance vaste et éternelle. Elle dépasse la raison plus parfaitement que la raison ne dépasse la connaissance des sens. Je crois qu'il faut d'abord que je vous explique une chose. Il y a un nombre de questions qui sont pourquoi Cher Bindo a dit comme ça, une chose ou l'autre. Je pourrais répondre, il a dit comme ça parce qu'il a vu comme ça. Mais il faut comprendre une chose pour commencer. Ce sont des définitions qu'il donne. Des définitions qu'il donne le plus souvent sous forme paradoxale, pour nous obliger à réfléchir. Il y a les définitions du dictionnaire, qui sont des explications ordinaires des mots, la compréhension ordinaire, et qui ne vous font pas réfléchir. Ce qu'il dit est dit dans le but de briser la conception ordinaire afin de vous faire toucher une vérité plus profonde. Alors, il y a toute une quantité de questions qui sont éliminées comme ça. L'effort qu'il faut faire, c'est de tâcher de trouver la connaissance plus profonde, la vérité plus profonde, qu'il a exprimée par cette façon qui n'est pas ordinaire de définir un mot. Il y a quelques questions que je vais retenir, et une toute première qui m'a intéressée parce qu'elle vient d'un esprit réfléchi. la question porte sur le mot connaissance. Et compare l'emploi du mot tel que chez Aubindo le fait dans cette phrase et tel qu'il a fait dans la phrase que nous avons lue la semaine dernière. Quand la semaine dernière, chez Aubindo, opposé, pour ainsi dire, la connaissance à la sagesse, il parlait de la connaissance telle que elle est connue et pratiquée dans la conscience humaine générale. La connaissance que l'on obtient par l'effort et le développement mental. Tandis qu'ici, au contraire, la connaissance dont il parle est la connaissance essentielle, la connaissance supramentale ou divine, la connaissance par identité. C'est d'ailleurs pour cela qu'ici il l'a défini, vaste et éternel, ce qui indique évidemment que ce n'est pas la connaissance humaine telle que nous la connaissons d'habitude. Beaucoup de personnes ont demandé pourquoi il avait dit que le courant était ténu. C'était pour faire une opposition frappante, une image expressive de la différence entre ce qu'un esprit humain peut recevoir et percevoir de cette immensité de connaissances divines supramentales. Et cette connaissance elle-même, l'origine de cette inspiration, qui est, pour ainsi dire, infini. Même lorsqu'on est en contact avec ces domaines, la quantité, pour ainsi dire, de ce que l'on en perçoit est minime, ténu. C'est comme un tout petit ruisseau ou quelques gouttes qui tomberaient. Et ces gouttes sont si pures, si brillantes, si complètes en elles-mêmes, que le résultat est un sens d'inspiration merveilleuse qui vous donne l'impression que vous avez touché à des domaines infinis et que vous vous êtes élevé infiniment au-dessus de la condition humaine ordinaire. Et pourtant, ce n'est rien en comparaison avec ce qui est à percevoir. On a demandé aussi si l'être psychique ou la conscience psychique est le médium à travers lequel se perçoit l'inspiration. Généralement, oui. Le premier contact que l'on a avec les régions supérieures est un contact psychique. Certainement, d'avoir obtenu une ouverture psychique intérieure, il est difficile d'avoir des inspirations. Cela peut se produire d'une façon exceptionnelle, comme une grâce, dans des cas exceptionnels. Mais le vrai contact se produit à travers le psychique, parce que la conscience psychique est certainement le milieu le plus en rapport avec la vérité divine. Plus tard, quand on a émergé de la conscience mentale dans une conscience supérieure, au-delà du mental, même du mental supérieur, et que l'on s'ouvre aux régions de l'overmind et à travers le surmental au supramental, alors là on peut recevoir les inspirations directement. Et naturellement, à ce moment-là, elles deviennent plus fréquente, plus fournie, pour étendre, plus complète. Il est un moment où on peut obtenir l'inspiration à volonté, mais naturellement, cela exige un développement intérieur considérable. l'inspiration, comme nous venons de le dire, provenant de régions très au-dessus du mental, dépasse en valeur et en qualité tout ce que le mental peut produire de plus supérieur, comme la raison. La raison est certainement au sommet de l'activité mentale humaine, et la raison peut critiquer et contrôler la connaissance telle que l'on l'acquiert à l'aide des sens. Bien des fois, il a été dit que les sens sont des moyens de connaissance tout à fait défectueux, qu'ils ne peuvent pas percevoir les choses telles qu'elles sont, que ce sont des moyens de connaissance superficiels et très souvent erronés. La raison dans l'homme, quand elle est pleinement développée, elle le sait, et elle ne se fie pas à la connaissance des sens. C'est seulement quand on est infra-raisonnable, je pourrais dire, qu'on croit que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche, tout cela, c'est absolument vrai. Dès qu'on est développé dans la région de la raison, et de la raison supérieure, on sait que toutes ces notions sont presque essentiellement fausses, et qu'on ne peut d'aucune façon se baser sur elle. Mais la connaissance que l'on reçoit de cette région supramentale ou divine dépasse tout ce que la raison peut concevoir et comprendre, au moins autant que la raison dépasse la connaissance des sens. Il y a un nombre de questions qui portent sur un point pratique. Comment développer la capacité d'inspiration? Et quelles sont les conditions pour recevoir l'inspiration? Et est-il possible de l'avoir d'une façon constante? Ça, j'ai déjà répondu. Quand on s'ouvre aux régions supramentales, on se met dans les conditions d'avoir des inspirations constantes. Jusque-là, la meilleure méthode est de taire son mental autant qu'on le peut, de le tourner vers le haut et d'avoir une réceptivité silencieuse et attentive. Plus on peut établir un calme silencieux parfait dans le mental, plus on sera capable de recevoir des inspirations. Il a été demander aussi si les inspirations sont de qualités différentes. Dans leur origine, non, c'est toujours quelque chose qui descend des régions de la connaissance pure et qui pénètre dans la partie la plus réceptive de l'être humain, la plus appropriée pour la recevoir. Mais ces inspirations peuvent s'appliquer, pour ainsi dire, à des domaines d'action différents. Ça peut être des inspirations de connaissances pures, ça peut être aussi des inspirations pour aider au progrès, à l'effort de progrès, et ça peut être aussi des inspirations pour des actions à accomplir pour aider dans la réalisation pratique et extérieure. Ça, c'est plutôt un emploi fait de l'inspiration qu'une qualité de l'inspiration. L'inspiration est toujours comme une goutte de lumière et de vérité qui arrive à pénétrer dans la conscience humaine. Ce que la conscience humaine fera de cette goutte dépend de l'attitude, du besoin, de l'occasion, des circonstances. Ça ne change pas la nature essentielle de l'inspiration, mais ça change l'emploi qu'on en fait, l'emploi pratique qu'on en fait. Il y a quelques questions concernant la différence entre l'inspiration et l'intuition. ce n'est pas la même chose. Mais je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet au cours de notre lecture. Et quand Sir Bindu nous dira ce qu'il considère être l'intuition, alors nous en parlerons. D'une façon générale et presque absolue, si on veut vraiment profiter de cette lecture comme de celle de tout ce que Sir Bindu écrit, la meilleure méthode est, après avoir rassemblé sa conscience, fixer son attention sur ce que l'on lit, il faut arriver à un minimum de tranquillité mentale. Si on peut obtenir le silence parfait, c'est la meilleure chose. Et arriver à cet état d'immobilité mentale, d'immobilité cérébrale, tel que l'on peut produire une attention aussi tranquille et immobile qu'un miroir, que la surface d'une eau absolument paisible, alors la chose lue se réfléchit dans ce miroir et pénètre profondément dans l'être de façon à être reçu avec le minimum de déformation et après, quelquefois longtemps, cela ressurgit, pour ainsi dire, du cerveau, avec sa pleine puissance de compréhension, non pas comme une connaissance acquise du dehors, mais comme une lumière que l'on portait au-dedans de soi. Et comme cela, on a le maximum de facultés de comprendre. Tandis que si en lisant, le mental reste agité et essaye de raisonner et de comprendre immédiatement ce qu'il lit, on perd plus des trois quarts de la force, de la connaissance et de la vérité contenue dans les mots. Et si vous pouvez ne poser des questions que lorsque ce processus d'absorption et de réveil intérieur est accompli, eh bien, vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup moins de choses à demander parce que vous aurez mieux compris ce que vous avez lu.